Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous. Rappelez-vous, au commencement était le magazine Focus Vif, vendu chaque semaine avec le Vif Express. Ensuite, il y eut le podcast des journalistes de Focus, le prolongement radio de nos pages. Et aujourd'hui, il y a sa déclinaison télé que vous avez sous les yeux en ce moment même si vous apercevez ce petit signe de la main que je vous adresse. De toute façon, que vous nous écoutiez ou que vous nous regardiez, le principe reste le même. Quatre professionnels de la critique, tous calés dans un domaine différent, qui discutent des objets culturels les plus remarqués du moment. On cause aujourd'hui du nouvel album de David Bowie, de The Master, le film de Paul Thomas Anderson, de la série Game of Thrones et du roman de Paula Olwaksarak, Les théories sauvages. Et qui a vu, lu et écouté tout ça, il y a le Teen White Duke, Laurent Raphaël, qui est le rédacteur en chef du magazine. Bonjour Laurent. Bonjour. Il y a Kevin Dauchin, notre caméléon, journaliste homatophère de la rédaction. Bonjour. Et puis il y a notre Ziggy Stardust. Vendeur de glamour, de rêves et de paillettes, et aussi journaliste télé, c'est Guy Verstraeten.
Champion de flipper.
Et champion de flipper. C'est parti, Focus Store, clap 10e.
Focus Store !
Et on débute donc cette émission avec The Next Day, le nouveau disque de David Bowie, un disque surprise après 10 ans d'absence qui a été annoncé le 8 janvier dernier, le jour de ses 66 ans, avec la mise en ligne inattendue d'un drôle de clip, celui de Where Are We Now, entre spleen berlinois et tête à claque québécoise. 14 morceaux, 17 sur l'édition Deluxe, pour le retour le plus fracassant de l'histoire du rock, c'est ce qu'on dit. Toujours ce dosage de beaux bizarres planants et de guitare énervée, de glam et de psyché, et cette voix fragile et vacillante en équilibre précaire entre vibrato soul et chevrotement de vieilles biques tondues à vif. Je vous laisse constater par vous-même avec un extrait de The Stars Are Out Tonight, le deuxième single de l'album. The Stars Are Out Tonight, extrait de The Next Day. Alors au niveau de l'artwork de la pochette, on ne s'est pas foulé. On a repris la photo de couverture de l'album Heroes de 77, on lui a collé un carré blanc dessus et on y a inscrit The Next Day, ce qui me semble être une parfaite mise en abîme de la teneur de ce disque, un album que j'ai quand même trouvé très très daté, qui ne m'a pas vraiment intéressée. Mais il faut dire que oui, il m'a toujours très très largement, mais largement passé au-dessus de la tête. Mais j'ai l'impression que je vais me sentir quand même très très seule sur ce coup-là. Non, vous n'allez pas me taper?
Non, non, non. Oui, mais jamais passé au-dessus de la tête.
Vas-y, Guy.
Relax. David Bowie, quelle histoire quand même. Bon, j'ai 30 ans. 31, pardon. Et Bowie, forcément, j'ai pas connu tous ces avatars, j'ai pas connu toutes ces évolutions, j'ai pas connu toute la révolution qu'il a pu induire dans la musique contemporaine. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique, globalement, et qui a plutôt bonne presse auprès de moi. Et en l'occurrence, j'ai écouté son album avec attention, plusieurs fois même, et je dois dire que ça m'a favorablement surpris. Au bout de la 18e écoute. Non, vraiment. Après un moment, j'ai commencé à vraiment l'écouter attentivement. Et je trouve qu'il y a dans cet album, au-delà du fait qu'il y a peut-être un peu trop de références à la mort, je trouvais qu'il y avait beaucoup de « I'm not dead »,« He's not dying »,« I'm here »,« I'm not dead ». Ça faisait vraiment comme si tout le monde pensait qu'il était mort, ce qui est apparemment
un peu le cas. Tu te sens tellement seul que tu pourrais mourir.
Mais c'était un peu ça.
Je trouve qu'il y avait... Il a frôlé la mort. Il a été très malade, donc on l'a cru perdu.
Non, mais est-ce que c'est avéré, ça, ou pas? Parce que je ne suis pas certain.
Il est très discret sur sa vie privée, mais apparemment, il y avait quand même de bonnes présomptions qu'il a eu un cancer. Je ne sais pas s'il est complètement guéri. Donc, c'est apparemment quelque chose qui doit le hanter. Il a 66 ans. Je pense qu'il arrive à un stade de sa vie où il y a pas mal de questions un peu existentielles qui doivent le bousculer. Ceci explique sans doute cela.
Est-ce que j'ai vraiment sûr qu'il a eu un cancer?
Je sais pas, je suis très mal informé, mais
le gala du rock'n'roll.
En tout cas, il y a beaucoup de ce thème de la mort qui revient régulièrement dans l'album. Aussi, c'est un album, je trouve, très punch, qui rentre vraiment dedans au niveau de guitare. Il y a beaucoup de guitare, etc. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans l'album, c'est que chaque chanson, je trouve, a une personnalité. Donc il y a vraiment, il y a des gimmicks dans chaque chanson.
C'est vrai.
Il y a, c'est reconnaissable. C'est pas une espèce de litanie comme on peut entendre des albums pop actuellement où, il y a, où au bout de la 6e ou 7e chanson,
on ne sait même pas si tu as changé de plage.
Exactement.
Ou pas.
Exactement. Ici, il y a un vrai côté. Il s'est vraiment foulé pour faire 14 titres ou 17 en l'occurrence pour l'édition Deluxe, qui sont 17 titres qui sont reconnaissables et qui est un vrai album, je pense.
Et, il s'autocite beaucoup en fait. Il puise un peu dans tout son catalogue.
Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'a un petit peu.
Ouais, mais enfin moi ce qui m'a frappé, c'est quand même l'énergie.
Il y a une vraie
malgré les thématiques un peu morbides, on sent un plaisir à écrire et à chanter avec une énergie folle d'un petit jeune, avec une voix qui a pas perdu son côté un peu spectral et assez magnétique. Et donc il réussit quand même un beau retour après plus d'une décennie de disette, quasiment deux décennies complètes où on l'a pas entendu, ou alors quand on l'entendait, c'était avec une grimace. Et donc je trouve qu'ici, il réussit quand même à faire un album qui est très instrumental, parfois un peu trop, où il charge un peu la barre, il vire parfois un peu métal. Mais à côté de ça, je trouve que moi, les morceaux les plus décharnés fonctionnent vraiment bien, quoi.
On n'a pas dû écouter le même métal pour que tu trouves ça métal.
Mais moi, Led Zepp, c'est déjà métal. Hein.
D'accord. Mais sinon, il a ce côté morbide, mais décalé et fun aussi. Le morceau de Stars Are Tonight, justement, c'est assez. Enfin, moi, je l'ai pris au second degré, en tout cas. Et quand on voit le clip, justement, c'est. On voit bien ce côté.
Oui, il fait
côté.
Son petit supermarché avec Bobonne.
Oui, avec Bobonne qui est Tilda Swinton. Oui. Et donc, ça montre bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste un artiste plasticien, aussi sensible à la peinture et au visuel qu'à la chanson. Et c'est ça que je trouve assez fascinant dans le personnage. C'est que dans ce clip-là, il ne fait pas un bête clip. Non, il va chercher l'actrice qui est la plus pointue dans son secteur, qui lui ressemble un peu, donc il y a tout ce mimétisme. Et il arrive à en faire quelque chose, un objet d'art intéressant, presque une installation, quoi.
Ça, c'est marrant, d'ailleurs, le choix de Tilda Swinton. Je me suis dit, dès les premières secondes du clip, j'ai vu le Tilda Swinton au générique. Je me suis dit, enfin, mais c'est évident, quoi, c'est David Bowie. C'est sa sœur. Et alors, j'ai un peu fouillé. Je suis tombé sur un blog qui s'appelle Tilda Stardust, où ils remettent l'un à côté de l'autre chaque fois des photos de David Bowie et de Tilda Swinton dans le même genre de cas. Et c'est assez,
j'avais
assez flagrant.
Les pochettes d'albums de David Bowie refaites par des chats.
C'est bien.
Par des lolcats.
C'est pas mal.
Non, mais ça prouve justement, c'est par l'absurde aussi, l'importance du personnage, je pense, dans la pop contemporaine.
Oui, mais c'est incroyable. Vous savez même que la Stib, le jour de la sortie de l'album, a fait une journée spéciale dans ses stations de métro et a diffusé l'album toute la journée. C'est incroyable.
Qui était en écoute gratuite sur iTunes, en tout cas, sauf les trois titres bonus, mais le reste de l'album était en écoute.
Oui, mais deux jours après, c'était sur. Partout, sur les Spotify, Deezer et compagnie.
Enfin, bon, on peut reparler aussi de cette manière d'amener cet album, puisqu'il a caché toute l'histoire. De nouveau, un coup de génie du bonhomme qui arrive en étant un contre-courant complet de l'exhibitionnisme et du buzz, sort un album du jour au lendemain sans que personne soit au courant. C'est un coup de maître, parce que finalement, sans se montrer, puisqu'il n'accorde pas d'interview, tout le monde parle de lui. Ouais. Et cet album est apparemment premier dans les ventes sur iTunes. Ouais. Et il réussit à faire un carton, quoi.
Musicalement, qu'est-ce que
je voulais dire, justement. Enfin, je trouve qu'on parlait de cet album assez patchwork, avec un peu de tout de chaque genre. Mais par contre, je trouve qu'au global, au final, on retrouve pas. Il y a pas un grand morceau. Ça manque de chansons assez pop avec des refrains qu'on retient, qu'on chante.
Valentine's Day, je trouve que c'est une chanson pop évidente, quoi. Il y a un côté. Justement, il y a des refrains.
C'est
il y a des
moins chargés, mais elles fonctionnent super bien aussi.
Je m'inscris en faux.
Love is lost.
Non, là, mais tu vas trop
loin. Love is lost,
très belle chanson. Oui, tout à fait.
J'ai pas dit que c'était des mauvais morceaux, mais je trouve que en sortant de l'album. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas un gimmick qui me reste en tête.
Oui, t'as pas un tube qui s'impose.
Il y a pas un Ziggy Stardust, il y a pas un Rebel, par exemple.
Qui fait encore un tube de comme ça instantané, qui soit original.
Nabila. On a des références.
Justement, Valentine's Day, par exemple, c'est une chanson pop. vraiment bien ficelé, bien avec justement le refrain qui revient, qui est entêtant, etc. C'est une des chansons sur lesquelles je me suis retourné plusieurs fois, ouais, en me disant ah, il y a quelque chose d'un peu particulier. Maintenant, après, c'est vrai que faire des chansons Ashes to Ashes ou les chansons qu'il a pu faire, Life on Mars ou des choses comme ouais, ça, c'est pas certain qu'on les retrouve d'ici peu, mais pour autant, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait.
Tout bon, à fait.
On va mettre une petite note, je t'ai coupé sans doute.
Non, je, voilà, jamais, je, tu ne me coupes jamais,
c'est
de toute
vrai
façon.
Ce n'était pas intéressant ce que tu allais dire.
C'est... Non, ben non, je
ne l'ai pas. C'était intéressant, oui. J'ai un changement de couleur, Kevin, quand tu vas dire un truc
intéressant. Bon, on va mettre
rouge comme ma couleur.
Des petits carrés blancs sur 10. Bah, moi, j'en mets 5, bah, parce qu'en fait, oui, ça me fait chier. En fait,
c'était pas sorti de la tête,
ça me fait chier complètement. Je l'ai écouté pourtant au moins 20 fois.
Rien à sauver pour toi dans le lot.
Bah si, je préfère ça que le bruit des ongles qui crient sur un tableau noir. Mais c'est
même les albums des années 80, tu restes
hermétique.
Dance,
oui, pardon,
ça
ne t'amène pas.
Les albums plus pop, ça ne te parle pas non plus. Quoi.
Non.
Okay.
Donc voilà, 5. Et toi,
7. Jusqu'à 7.
Je vais mettre 7 aussi, ouais.
Alors moi, je vais mettre 6. Mais je me sens, enfin, je suis plus de votre côté, je trouve que je suis un peu trop près de ton avis, mais en même temps, je trouve que par
ça
rapport
te dégoûte.
À. Oui.
T'es près de quelqu'un qui vient de comparer Bowie au Chris.
Voilà, Moore, exactement.
Donc, non, j'ai dit que c'était quand même mieux.
Donc je crois que je vais mettre un 7 quand même.
Parce
que,
quoi.
Ou alors tu redescends ta cote. Mais sinon...
Allez, c'est 4. Moi, je mets 4.
Allez, je garde 6.
Bon, on va noter que dans les pages de Focus, notre ami Philippe Cornet a mis 3 étoiles sur 5 à The Next Day et parle d'un très bon disque rock'n'roll musclé et viscéralement incarné par l'icône de 66 ans, même si l'ensemble s'avère en déficit mélodique. Fin de citation. Dont acte. The Master, c'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson, à ne pas confondre avec Wes Anderson. Le premier, celui qui nous intéresse, c'est un réalisateur américain majeur, mais très très peu prolifique. On lui doit seulement 6 longs métrages en tout et pour tout sur toute sa carrière, dont Boogie Nights, Magnolia et There Will Be Blood. Près de 5 ans après son dernier film, il revient avec ce Master, Lion d'or au dernier festival de Venise. 137 minutes sans coup d'éclat, sans retournement de situation, sans suspense, mais qui se regarde quand même la mâchoire sévèrement décrochée. Voici déjà un petit extrait en guise de mise en bouche.
I give you facts.
You don't give
they
me
are not
facts.
Opinions.
What facts?
They are fucking
what
facts. Facts.
What facts.
Fuck you.
Facts.
Fuck you.
Fuck you.
Why don't you kick
fuck
the
you
bed some more?
Fuck you.
Fuck you, you
fuck
lazy
you
ass piece of
fuck
shit.
Fuck you, I'm not lazy.
I'm done, you're fucking lazy.
No, you make shit
you're
up.
Fucking lazy.
Your
I make shit up.
Your family hate you.
Oh,
your son hates you.
Oh, they do.
Yeah.
Who fucking likes you except for me?
Nobody.
Except for me.
No, you don't fucking
who
like
likes
me
you except for me? Except for me.
You shut up.
I'm the only one who likes
fuck you.
You.
Yeah, fuck you, Jim.
You.
Fuck you.
Just me, Freddy.
Just you.
I'm the only one that likes you. The only one.
C'est l'histoire de Freddy, c'est Joaquin Phoenix, un soldat américain qui est revenu tout cabossé de la guerre du Pacifique, déglingué dans sa tête, avec des accès de rage, de violence et même de folie, largement arrosé de l'alcool qu'il distille lui-même pour bien s'exploser les neurones. Un jour de biture, il va rencontrer Lancaster Dodd, c'est Philip Seymour Hoffman, qui va, on ne sait pas trop pourquoi, se prendre d'affection ou en tout cas d'intérêt pour lui. Dodd est une sorte de gourou à la tête d'un obscur projet appelé La Cause. Et il va tenter de traiter et d'apaiser Freddy avec des séances de désensibilisation, pas très loin de la torture mentale. Alors nous, on a mis 4 étoiles à ce film dans Focus sous la plume de Jean-François Pleugers qui évoque un film monde dont l'exceptionnelle richesse trouve son pendant dans une éclatante maîtrise formelle et une stupéfiante beauté. Et c'est vrai que c'est formellement très très beau, tourné en 70 mm, sonorisé par Johnny Greenwood de Radiohead. C'est aussi et surtout très envoûtant, hypnotisant, un peu comme les séances auxquelles doit s'adonner Freddy. Mais je retiendrai surtout que Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman sont deux putain d'immenses acteurs. C'est quand même très difficile à croire que les Oscars leur sont passés sous le nez. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Laurent, le chef ?
Ben, il n'a fait que 6 films, mais 6 chefs-d'œuvre. Hein. C'est quelqu'un qui a une carte de visite en béton armé. There Will Be Blood, le dernier, pour ne pas le citer. Film immense, dense, prenant.
Film à Oscar aussi.
Film à Oscar avec Daniel Day-Lewis. Ici, voilà, il fait nouveau, c'est nouveau un tour de force. C'est un film assez littéraire. avec pas mal de clés qui ne sont pas données aux téléspectateurs. Et donc, il faut rentrer dans ce film de manière un peu... Il faut se laisser emporter par un flow.
Par une petite musique.
Oui, cette musique d'ailleurs qui est assez agaçante par moments, puisqu'elle frise un peu la musique contemporaine. Elle joue aussi, elle tape un peu sur les nerfs en parallèle avec ce que le film raconte.
Ce qui cadre très bien avec les séances de désensibilisation de Freddy, qui sont aussi assez crispantes à voir, non ?
Ben oui, mais c'est un film qui joue un peu sur les nerfs. Hein. Clairement, il nous prend dans cette relation un peu père-fils, gourou, disciple. On ne sait pas très bien où se situer. On a un phénix qui est un peu perdu dans l'alcool, qui se noie de plus en plus. Et on a Philip Seymour Hoffman qui s'en sert de Kobe pour essayer sa théorie. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait ? Ben, il arrive à faire un objet philosophique, nous poser plein de questions sur la mort, sur le sens de la vie, mais de manière tout à fait par petites touches. Et voilà, avec ses qualités visuelles, avec une espèce de métaphore de la vie et de la mort, mais avec quelque chose d'un peu plus âpre, de moins accessible peut-être que dans ses films précédents. Donc il y a une densité qu'on ressent très fort, et notamment par cette image dont tu parlais en 70 mm, mais c'est parfois un peu dommage qu'il ait focalisé uniquement sur la relation entre ces deux personnages, très intéressante, mais on a vite compris comment ça fonctionnait entre eux. Et il va étirer ça sur toute la longueur, et c'est plus de 2 heures, alors qu'on aurait bien aimé de temps en temps qu'il sorte un peu de cette relation pour continuer à l'explorer sur d'autres horizons.
Et il y a un troisième personnage, c'est le personnage de la femme de Philip Seymour Hoffman, joué par Amy Adams.
Qui vient un petit peu compenser de temps en temps et remettre l'église au milieu du village, puisque c'est quand même elle en partie qui tient les rênes de cette relation, qui essaye de la maintenir sur les rails de ce que Seymour Hoffman veut en faire au départ, donc une espèce de test de sa philosophie grandeur nature. Et elle est là pour un petit peu, c'est le gardien du temple quelque part, parce que Hoffman n'est pas tout net non plus, et c'est un des intérêts du film, c'est que les personnages sont troubles tous, ils sont pas tout noirs ni tout blancs. Phoenix a des failles immenses, mais en même temps, c'est quelqu'un de généreux et qui se donne complètement à ce gourou. De son côté, ce gourou, c'est pas quelqu'un non plus de... C'est un escroc, mais pas complètement non plus.
Mais on ne sait pas vraiment si c'est un escroc. Il n'y a pas vraiment de morale là-dessus. On ne sait pas quelles sont ses motivations.
On sent qu'il y a un opportunisme, en tout cas, dans la manière, et plutôt sur la fin du film, dans la manière d'exploiter, puisqu'on dit qu'il s'est inspiré de la vie de Ron Hubbard, créateur de la scientologie.
Ce que Paul Thomas Anderson...
Oui, d'accord, mais enfin, il y a apparemment pas mal de rapprochements à faire. Et c'est vrai qu'on sent qu'il va y avoir une exploitation un peu commerciale du truc, et notamment avec sa femme derrière qui s'assure que ça va bien dans ce sens-là. Mais en même temps, on sent qu'il y a une vraie affection pour le personnage complètement brimé de Phoenix, et qui voudrait sincèrement l'aider, et qui se pose lui-même des questions finalement sur sa propre théorie. Et qui cède aussi à l'alcool, puisque chacun a ses démons et partage cet alcool vraiment très frelaté, parce que je vous invite pas à essayer mélange d'huile de moteur. Et ben voilà, ça c'est.
Je trouve que l'une des forces justement, c'est de donner à Philip Seymour Hoffman un personnage pas caricatural pour un sou. Vraiment, il n'y a pas ce côté gourou qu'on pourrait avoir. On entend le synopsis, on se dit bon, il va y avoir un gourou qui prend sous son aile un garçon un peu perdu. Il y a un côté tout à fait normal, je trouve, chez Philippe, un peu charismatique, mais sans entrer dans l'excès, qui est assez phénoménal. Philip Seymour Hoffman est incroyable dans le film. Je trouve que, en revanche, Joaquin Phoenix, qui fait une prestation marquante, je le trouve parfois à la limite entre le génial et le grotesque.
Est-ce que c'est du jeu, en fait ? Moi, c'est ce que je me demande. Il y a une scène où il se tape la tête contre une espèce de lit dans une cellule. Il a dû se faire réellement mal. Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce qu'il se rend compte qu'il joue un personnage ? C'est ça qui est complètement
fou. Ça fait un peu peur, mais il a un petit peu un côté, parfois, Sean Penn dans... I Am Sam, je pense, ce film où il joue un handicap.
Oui, c'est vrai.
Où il joue un retardé. Il a un petit côté, parfois, un peu comme ça, qui... m'a parfois laissé une distance avec le personnage en me disant, bon, là...
C'est la méthode, il est dans son rôle à 300%.
Oui, mais en même temps, il y a un petit côté que Hoffman n'a pas, parce que forcément, il ne joue pas du tout le même type de rôle, mais pourtant, n'y a pas cette caricature. Et pourtant, Hoffman a une palette de nuances dans son jeu qui est phénoménale.
Mais Phoenix est plus monochrome que Seymour Hoffman. Mais Seymour Hoffman, ici, étant quelqu'un qui manipule les concepts, qui est à la fois physicien, théoricien, tout ce qu'on veut, évidemment, il doit avoir une palette beaucoup plus large pour embrigader les gens. Ici, Phoenix, c'est quelqu'un de faible. Être faible. Et avec ses excès, complètement brimé par la guerre, puisque ça, c'est le point de départ. Ouais. Alors, je suis assez d'accord, hein, on se demande un peu jusqu'où il joue et où est-ce qu'il est réellement lui-même. Phoenix, apparemment, est quelqu'un d'assez incontrôlable, comme expliquait d'ailleurs Paul Thomas Anderson. Quand il tourne avec Phoenix, il doit éclairer toute la pièce parce qu'ils savent jamais jusqu'où il va s'arrêter, jusqu'où il va jouer dans la pièce.
Oui, il avait fait une interview assez marquante sur le plateau de Letterman. C'était pour la promotion de son film.
Le documentaire, I'm Not There.
Voilà, c'est ça. Et il ne pète pas un mot, il reste dans sa barre tout le long. Et il y a Letterman qui essaye de...
Mais ça, c'était un documentaire. En fait, il se foutait un peu de la gueule du monde en disant qu'il allait se transformer en rappeur. Ouais. Et alors, il était venu sérieusement chez Letterman. Et c'est le frère Affleck.
C'était quoi, finalement?
C'est un documentaire,
ouais,
apparemment.
C'était un fake, c'était pas vraiment...
Oui, non, c'était un fake. Mais là, il joue tellement, il vit tellement ses personnages qu'en effet, on ne sait plus très bien où est la limite, quoi.
Il est vraiment fascinant.
Il est habité, vraiment. Aussi,
habité, tout à fait. Ce qu'il y a d'autre, je trouve, vraiment d'impressionnant dans le film, c'est la photo. Il y a quelque chose de lumineux dans ce film, dès les premières images, qui te... Justement, tu disais, on rentre un peu pas à pas dans le film. Moi, je trouvais qu'au contraire, tu es directement happé parce qu'il y a une clarté, une luminosité incroyable dans le film. Et justement...
Tu n'as pas une scène d'action, c'est ça que je veux dire. C'est tout de suite quelque chose un peu mystérieux où on ne te donne pas les clés immédiatement.
C'est en demi-rythme comme ça. Tout le film se passe...
Il fait semblant de forniquer avec un château de sable. C'est une sorte de scène d'action.
Oui, si on veut. Non, mais
c'est
un peu à l'art.
C'est toujours une moitié de rythme comme ça. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a aucun lancement vers quelque chose de... vers l'action ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est jamais ennuyant. Donc Donc c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose d'assez insondable dans ce film qui le rend assez fascinant. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une grande, grande, grande réussite à tout point de vue, ce master.
Et t'as pas l'impression par rapport à There Will Be Blood, par exemple, qu'il reste un peu cantonné, enfermé dans cette relation là où dans les précédents, il arrive à donner une dimension un peu plus large et un côté peut-être plus accessible, parce que finalement c'est un film assez âpre, qui n'est pas simple, le sujet n'est pas simple, il n'aide pas beaucoup le spectateur, sûr. Même si je trouve ça formidable, magnifique, et ça reste, et la musique y aide aussi, contribue, mais c'est moins évident, c'est son film le moins évident.
C'est moins évident que Magnolia, que Punch Drunk Love,
ou Boogie Nights,
des choses comme ça, bien sûr, mais pour autant, je trouve qu'il y a ce qu'il n'y avait pas forcément dans les films précédents. Ici, les scènes entre Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix sont d'une intensité, c'est étonnant, quoi. Quand ils se parlent vraiment, ils se parlent pendant très longtemps, l'un pose des questions à l'autre, l'autre répond de manière un peu automatique, comme ça, c'est... Wow ! Il y a une intensité qui se dégage de ces dialogues, c'est frappant, quoi. Et il y avait peut-être moins ça dans les autres films, qui étaient des films un peu plus classiques, qui étaient d'une maîtrise absolue. Magnolia, c'est un film extraordinaire, mais dans un autre registre ici. Ça m'a fait penser un peu au film de Sam Mendes, comment s'appelle ce film encore, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Je crois que c'est Revolutionary Road, je pense. Ce genre de film... absolument maîtrisé, mais qui garde une qui garde une espèce d'esthétique comme ça tout au long, mais qui en même temps parviennent à toucher finalement. Et moi, ça m'a...
C'est de bonnes références, Guy. Je pense.
Je crois que dans un sens, c'est aussi cette distance qui fait la force du film. Je crois que ça marcherait pas si on rentrait plus dedans, je crois.
Ah oui, non, mais c'est la qualité, mais c'est la qualité du film, c'est l'aspect plus littéraire, comme ça que je qualifie un peu du film. C'est ce qui fait ses qualités, c'est ce qui fait, dans ce cas-ci, je trouve parfois un peu la limite entre le film excellent et le chef-d'œuvre. Voilà, c'est la petite fraction.
Quelque chose.
Moi, je voudrais donner une petite mention spéciale à notre copine Laura Dern. qui est un très petit rôle, mais qui, elle, est complètement au premier degré, qui est un des seuls personnages qui a peu de degrés de lecture, je trouve, et qui est assez drôle et qui me fait penser à son personnage d'Illuminé dans la série Enlightened. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, une série d'HBO elle a subi une certaine crise et elle essaye de revenir aux fondamentaux, à la nature, au chakra, tout ça.
Et ce rôle se rapproche de celui-ci.
Oui.
Amy Adams, c'est très très bien aussi. Hein.
Oui.
Un petit côté Nicole Kidman à ses débuts, comme ça, je trouve.
Un côté petit cochon aussi. Hein.
Oui, Nicole Kidman. mais je trouve qu'elle est assez persuasive et elle trouve sa place dans ce duo d'acteurs exceptionnels, ce qui est quand même pas évident. Et quand elle est dans la pièce avec les deux autres, elle tient la route et elle impose le respect. Elle fait vibrer les scènes, je trouve, de manière assez intéressante.
Mais je veux juste rendre justice à Paul Thomas Anderson. Je pense qu'il a 42 ans ou 43 ans, je pense.
Il est né en 1970.
Il est tout jeune, donc il a fait que 6 films.
Oui, mais il met 5 ans entre chaque film.
On verra quand on aura 42 ans. On verra ce qu'on aura fait, nous deux, à 42 ans.
Et tu sais qu'il sort avec une humoriste, quoi, une fille de Saturday
Night Live. Anne Roumanoff, oui, j'en ai. Tout à fait, c'est un couple
étonnant.
Qui fait rêver Hollywood.
Étonnant.
Non, je sais.
Bon, on va mettre une petite cotation, on va mettre des verres d'alcool frelaté sur 10. Moi, je lui en mets quand même 8.
Oui, bah, je vais lui en mettre 8 aussi, avec la petite réserve que je disais, mais ça vaut quand même un 8.
Absolument.
De Gaulle.
Je trouve que c'est une très très bonne cotation.
Une bonne cote. Hein.
Bah, je ne veux pas changer. Ça ne sert à rien, finalement.
Bah, c'est la première fois qu'on est unanime, non?
Oui,
c'est pour tous.
Pour tous.
On parlait de Master, le dernier film de Paul Thomas Anderson. Game of Thrones, c'est la série qui nous intéresse aujourd'hui parce que la diffusion de sa première saison ne va pas tarder à se terminer sur la 2, sur la RTBF, parce que sa troisième saison débutera dans 2 semaines aux États-Unis et parce que sa deuxième vient de sortir en DVD chez nous. Ça fait quand même quelques bonnes raisons. Game of Thrones, c'est un énorme, énorme phénomène un peu partout dans le monde qui fédère une incroyable communauté de fans. C'est la série la plus téléchargée de 2012 et c'est un des rares exemples d'accord parfait entre le public et la critique. Il faut dire que c'est l'adaptation télé d'une saga d'heroic fantasy signée George R.R. Martin qui avait déjà connu un très très gros succès. Bon alors, comment pitcher un truc pareil? C'est assez difficile parce que c'est vraiment monumental. On va dire que dans le royaume des Sept Couronnes, il y a bien longtemps, un roi dont le bras droit vient d'être assassiné demande à l'un de ses seigneurs de devenir son second. Et de l'autre côté du monde, le fils de l'ancien roi renversé par le nouveau veut conquérir le trône. Voilà, c'est en tout cas comme ça que ça commence, j'ai essayé de faire au plus simple. Et voici en tout cas à quoi ça ressemble.
Mon nom est Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen. Je suis du sang de l'ancienne Valyria et je suis la fille du dragon. Je vous jure aujourd'hui que ceux qui vous voudraient du mal mourront en hurlant de douleur.
Vous ne m'entendrez pas hurler.
Je t'entendrai.
C'est donc fait à base de têtes tranchées et de croupes de femmes besognées. Il n'y a que de la baston, de la stratégie et de la baise dans Game of Thrones. Personnellement, je trouve ça assez bourrin, voire baraki comme série. J'entends déjà qu'on crie en régie. Kevin, c'est quoi ton avis là-dessus?
Moi, je suis plutôt fan, justement.
Plutôt
je
fan.
Suis plutôt conquis. Je trouve que la grande force de la série, c'est d'être une série d'heroic fantasy sans vraiment l'être. Et ça permet de toucher un public peut-être plus grand. Le bon exemple, c'est que moi, quand j'étais gamin, j'étais plongé dans Le Seigneur des Anneaux et ce genre de choses que j'ai lues et relues, etc. Et quand c'est sorti au cinéma, j'étais waouh, comme ça. Et à côté de ça, ma copine est plutôt frileuse à ce genre de choses. Et pourtant, quand on a commencé à regarder la série à deux, c'est elle qui disait ouais, non, pas grave, on dormira un petit peu moins, on va se regarder un épisode de plus.
Ah, moi, pas du tout.
Et donc,
je devais me forcer pour lancer le suivant.
Mais voilà, moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis, on n'est pas trop dans le côté dragon, machin, esprit, etc. Je trouve que ça pourrait être une série médiévale. Voilà.
C'est parce qu'il n'y avait pas assez de budget, à mon avis. Du coup, tous les effets spéciaux étaient
un peu... Je crois qu'au niveau du budget, ça va.
Oui, il faut qu'il se débrouille bien.
Mais c'est pas si sûr, justement, parce que ce côté heroic fantasy, moi, qui me pompe l'air, l'heroic fantasy, ça me saoule d'une force absolue en général. Ici, il y a un petit côté, effectivement, l'intrigue est tellement bien tricotée et il y a des vrais enjeux au niveau de la narration. Maintenant, c'est sûr que de temps en temps, on a l'impression qu'ils disent « Ah oui, tiens, en fait, au début, au pilote, on avait fait un truc un peu surnaturel. Est-ce qu'on mettrait pas
un dragon
ou alors un mort-vivant ou un truc comme ça? Est-ce qu'on a un peu le budget pour ça ?» Il y a ce côté quand même, ils se disent, est-ce qu'on a un peu oublié qu'on avait des trucs surnaturels.
T'as vu le nombre de figurants, le nombre de décors différents pour les scènes qui durent une demi-seconde.
Ça, c'est sûr, ça coûte pas
cher.
Figurants.
Des bons contacts pour les costumes, franchement.
Des bons polonais, des illégaux, c'est pas cher.
Moi, je trouve ce qui est plus gênant dans cette série, ce qui moi, je trouve un peu, c'est le côté vulgaire qui est...
Oui.
Et qui est assez... c'est pas du troisième degré, c'est vraiment niveau à des pâquerettes. C'est,
ça se prend très au sérieux, en plus.
Ça, ouais, c'est ça. Ça manque singulièrement d'humour. Ouais. Hein. Ça manque vraiment de recul.
Et ça, c'est dans toute série heroic fantasy, c'est toujours un peu le cas. Enfin,
c'est le contrat tacite avec le téléspectateur.
Ça me frappe toujours les acteurs qui sont obligés de déblatérer des dialogues complètement farfelus à base de mondes irréels et de peuplades qui n'existent pas et de fées et de trucs comme ça. Alors qu'ils le disent avec un air vraiment sérieux. C'est très important.
Mais
ils sont très concernés.
Un personnage
moi, ça me
qui est
touche.
Drôle et qui
c'est
a de distance, c'est le nain.
C'est
un excellent
nain.
C'est
vrai. C'est vraiment
mais
un excellent
nain. C'est le seul nain du cinéma et des séries.
Non, c'est pas le seul nain du cinéma. Là, je m'inscris en
faux.
Non, il y a pas Passepartout. Il y a ce garçon qui jouait Willow, dont je me rappelle plus le nom.
Ah oui.
Et qui a une série qui s'appelle Life is Too Short. Et il y a une série autour d'un nain. Donc voilà.
Pardon.
Revois tes informations sur les nains.
C'est lui qui apporte une dimension un peu plus psychologique à la série, puisque c'est dans les complots, c'est lui qui a compris, c'est le seul qui réfléchit un peu de la bande. Pour le reste, on est plutôt dans Xana la guerrière et Conan le barbare que dans une série.
C'est plus subtil que Xana la guerrière. Ouais,
je schématise, mais dans les passages, en effet, où il y a du cul à toutes les sauces... C'est un peu forcé, quoi. Ils n'ont rien d'autre à faire. Voilà. C'est un peu. Je ne sais pas, est-ce que ça correspond au public américain, teenager, qui aime avoir ce genre de truc. Mais ce n'est pas très relevé. Ça n'apporte pas grand-chose à l'intrigue. Et alors, moi, où ça me gêne, c'est que ça devient un artifice pour faire durer les épisodes. Et du coup, on se demande un peu quel est l'intérêt de faire une série. Pourquoi pas ramener ça une saison en moins ou deux en moins ou réduire les épisodes à 30 à 40 minutes. Voilà, je trouve que on sent un petit peu trop cette volonté d'aller puiser de ce côté-là juste pour meubler un peu et des plans, comme ça, plans séquences où on voit ces espèces de Chippendales se balader dans les herbes. Moi, personnellement, ça me laisse complètement froid.
Alors, les personnages féminins, je ne sais pas si vous avez marqué, mais sont d'une platitude.
Oui, malheureusement, ils sont rarement...
C'est lamentable. Mais il n'y en a même pas un pour rattraper les autres.
Cette petite blonde avec ses cheveux tout blonds, qui veut le trône.
Calissi. La Calissi. Qui tombe amoureuse d'un gros type horrible, parce qu'il lui fait bien l'amour.
Mais il y a une scène extraordinaire, c'est quand justement son mari, le fameux... Comment s'appelle-t-il ?
Une espèce de The Rock à longs cheveux.
Il a des longs cheveux, qui il tranche la gorge d'un de ses seconds, et puis passe sa main dans son gosier pour lui retirer sa langue, qui devient alors pour le coup une espèce de langue de bœuf, parce qu'il faut bien la voir à l'écran. Moi j'ai quand même l'impression que la langue humaine, même à l'époque, était relativement plus réduite. En l'occurrence, ça ressemble à une grosse langue de bœuf. Mais on se dit quand même, allez les gars, on se calme un peu sur les effets, il n'y a pas de raison d'aller si fort.
C'est le côté jacquasse un peu... De trucs, quoi. Je trouve que ça ressort un peu, c'est un peu trop
présent. C'est drôle aussi en même temps. Hein.
Ouais, mais eux, ils sont pas drôles quand ils le font.
Ils sont premier degré.
Ils ont l'air très conscients de ce qu'ils font.
Ils sont tellement premier degré.
Cela dit, pour être un peu plus dans ton sens, je trouve qu'il y a quand même une intrigue et le côté réaliste des jeux de pouvoir et tout ça est plutôt bien ficelé. et peut faire jeter de vagues passerelles entre cette époque imaginaire et les parallèles avec ce qui se passe
aujourd'hui. Il y a quand même vraiment une série de très chouettes personnages. À part le nain, il y a aussi le Geoffrey, l'aspirant
roi,
futur roi en fonction
c'est vrai
de
qu'il est assez affreux.
Qui est quand même un des pires méchants de série.
Alors qu'il a 12 ans.
Voilà, mais c'est peut-être.
Il est pas chouette lui. Hein. Ça, on a envie de lui.
On a envie qu'il meure.
On a envie qu'il meure.
Ouais.
Et pourtant, mais qu'il meure lui, quoi.
Et longtemps.
Que l'acteur meure.
Oui.
Mais je trouve qu'il y a Sean Bean. Je ne sais pas si on dit Sean Bean, je trouve ça me fait bizarre. Qui est le. Comment s'appelle-t-il? La main droite du roi, la première main droite du roi.
Ned
Stark, qui est un chouette personnage. Et voilà, on ne va pas spoiler, mais.
Bon, mais... On ne va pas dire que.
C'est tragique.
C'est un peu un mélange des genres un peu improbable. Voilà. Hein. Il y a aussi le frère qui prétend au trône.
Jamie.
Voilà, avec. Non, mais celui. Donc il y a le couple qui s'envoie en l'air, couple frère-sœur. Et lui, il sort d'un dessin animé Disney, quoi. Avec sa coiffure.
Oui, c'est le prince Eric.
C'est hallucinant, quoi.
C'est le prince de Shrek.
Ouais, tout à fait. Tu as envie de lui donner des claques aussi, dans Shrek, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que c'est, bon, pour le coup, c'est David Benioff qui scénarise avec, enfin, qui a créé, qui est le showrunner avec D.B. Weiss, donc de Game of Thrones. Et
le name dropping.
Qui sont ces gens?
Alors, David Benioff, je le cite pour la raison suivante, c'est parce qu'il a scénarisé et écrit le bouquin qui a servi à l'adaptation de La 25e heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Si quelqu'un a vu ce film de Spike Lee, qui est un film remarquable avec Edward Norton. Et c'est ce qui me fait... je trouve vraiment qu'il y a, effectivement, dans les intrigues et dans le scénario, c'est quand même costaud, malgré tout. Même s'il y a beaucoup d'exagération, même si c'est vulgaire, même si c'est un peu beauf, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a quand même une vraie intrigue, il y a quand même des vrais enjeux narratifs. Donc ça, c'est quand même, je trouve, intéressant.
Eh bien, notons à présent.
5.
5 têtes tranchées sur
5
10.
Têtes tranchées.
6.
Bah, bon, 7 quand même pour moi.
Ben, moi, ce sera 5 aussi. C'était donc Game of Thrones. Les théories sauvages, c'est un livre argentin, le premier roman de Paula Olwaxarac, je ne sais pas comment on prononce. Et c'est un gros phénomène dans son pays et en France, déjà parce que la demoiselle est plutôt pas mal de sa personne, la bouche charnue, l'œil charbonneux, une sorte d'Eva Green Latina de la littérature. Et ensuite parce qu'on la compare déjà, après un seul bouquin, à Michel Houellebecq. C'est Technicart qui avait attiré mon attention là-dessus en lui consacrant plusieurs pages à la fin de l'année dernière et en écrivant, je cite, « Les théories sauvages, c'est très certainement ce qu'on a lu de plus barré, provocateur, malicieux, sexy et stimulant depuis des mois. » Bon, alors ça raconte quoi ? Il s'agit de deux récits parallèles. Le premier va s'attacher à la trajectoire sexuelle et intellectuelle d'un couple de gros laiderons à travers le Buenos Aires arty et branché. Le second met en scène une jeune fille, la narratrice du roman, obsédée par la théorie dite des transmissions moïques, exhumée de l'oubli par un de ses profs du NIF qui la fascine plus que tout, le tout sur fond de récits initiatiques de peuplades reculées. Alors dit comme ça, ça peut avoir l'air simple. C'est en réalité plutôt complexe. Très luxuriant, très emmêlé, bourré de références philosophiques, très hermétique, de name dropping, c'est beaucoup trop érudit pour moi. Je n'ai pas tout compris. Et c'est un peu vain, en tout cas, ce qui fait que je n'ai pas dépassé la page 120 sur 250, je vous l'avoue. Et que je n'ai pas vraiment l'intention de m'y remettre en rentrant. J'ai assez enduré de choses comme ça. Guy, hier soir, je te parlais et tu me disais que c'était un petit peu difficile pour toi aussi. Je pense
pas du tout.
Que tu n'as d'ailleurs même pas terminé le bouquin, toi non plus.
J'ai adoré. Non, c'est pas vrai. Effectivement, on s'est parlé hier via un réseau social connu.
De référence.
Et de référence. Et c'est qui ? Lequel de nous l'a dit ? C'est affreux. Je pense que c'est moi. J'ai dit c'est affreux. Tu m'as dit oh non, c'est horrible, j'en peux plus. Il me tombe littéralement des mains. Moi, j'ai dit effectivement.
Et ça fait un buzz de malade pourtant ce livre. Comment tu l'expliques ?
Je l'explique parce que je vais d'abord reprendre une citation de notre vénéré maître et néanmoins rédacteur en chef et patron ici présent qui nous a dit pas plus tard qu'il y a 20 minutes. Elle est bonne, la Paula. Et je trouve que cette phrase.
Tu dis des trucs comme ça, Laurent.
Elle est bonne en littérature.
Voilà. Donc, quelque part, il y a de ça. Je pense que le fait que Paula Oleksarak soit une très jolie femme, qu'elle soit très jeune aussi, enfin bon, très jeune, elle a une trentaine.
35 ans.
Elle a, quand elle a écrit ça, elle avait 30
c'est
ans.
C'est très sexiste ce que tu dis, parce que Michel Houellebecq, il fait un buzz, c'est pas pour son physique.
Hein. Il l'a pas fait.
On va pas refaire l'histoire du monde et du sexisme.
Non, mais si on la compare à Michel Houellebecq.
Moi, je l'ai pas comparé à Michel Houellebecq, justement, je crois que c'est un des.
Le
problème que j'ai
plus,
par rapport à ton introduction, en tout cas ce que les gens en disent, moi je n'ai pas vraiment vu du Houellebecq là-dedans, même si effectivement il y a comment s'appelait les particules.
C'est le côté très cul.
Moi je trouve que Houellebecq a une fluidité beaucoup plus grande chez Houellebecq. Il y a un récit chez Houellebecq, c'est beaucoup plus littéraire. Ici c'est très philosophique et c'est très hermétique. Je pense que tu as trouvé le terme qui était adéquat. C'est très très hermétique. Moi, je me sens très bête après avoir lu ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un vocabulaire réduit et d'être incapable de comprendre ce qui est écrit dedans.
Ça fait des années qu'on essaie de le faire comprendre.
Voilà, donc je dois avouer ma faiblesse par rapport à ça. Je pense que si j'avais toutes les clés de compréhension de ce bouquin, à la fois je me sentirais plus intelligent et je pourrais reconnaître son côté brillant. Et il est certainement, j'imagine qu'il est certainement comme quand les gens mangent des huîtres. Moi, je déteste les huîtres, par exemple. Mais je peux imaginer que les gens considèrent ça comme formidable. En l'occurrence, je n'arrive pas.
Bon,
j'ai pas les clés.
Tu voulais nous lire un petit passage, non ?
Je voulais vous lire un passage. Absolument. Alors, c'est la page 133. Moi, je suis arrivé jusqu'à la page 200, donc je tiens à signaler quand même. J'ai fait acte de bravoure. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que Paula nous dit ? Paula nous dit « La conscience individuelle se réduit à la vanité, dont le domaine de définition est une interface autour du corps. Car l'amour est le sous-titre d'une réalité beaucoup plus spécifique, plus sidérale. La conscience individuelle n'entre en contact avec autrui qu'au travers d'elle-même, dans le langage de la vanité. La théorie est irréfutable quand elle affirme la présence d'un complot de manière divine organisée selon les intérêts humains. Déployer l'excès d'intimité qui consiste à être à la première personne, en sachant qu'il y a des deuxièmes et des troisièmes personnes dont le recensement ou l'existence se fait à partir de moi, à travers moi, etc. Ben, c'est formidable.
C'est limpide, elle parle de Facebook.
Voilà. Donc, j'ai pas tout compris.
Mais est-ce que c'est indispensable de tout comprendre ? Parce qu'il faut déjà se réfléchir.
Mais non, mais c'est indispensable d'un peu comprendre.
Moi, je crois que si on se laisse porter. Alors, c'est sûr, c'est pas une écriture et c'est pas une lecture facile ni toujours agréable. Mais si on se laisse porter, il y a quand même une espèce de musique qui finit par s'installer.
Ah, mais je trouve vraiment pas.
Et je trouve que dans les concepts qu'elle aborde, au bout du compte, on voit quand même la trame et cette critique
et
à travers ce couple.
Et c'est quelque chose de solide là derrière. Toi qui as compris quelque chose.
Parce c'est, que, pas, oui, c'est pas un peu fumeux, je veux dire.
Oui, bah il y a une partie fumeuse, mais c'est parce que c'est une critique de la société actuelle qui est elle-même fumeuse. Donc elle met en scène des personnages qui savent plus où ils sont, qui sont complètement perdus, passent leur temps à faire des espèces d'activités artistiques un peu elles-mêmes fumeuses. Ils n'ont plus de repères, donc ils sont dans un échangisme mais qui n'est pas satisfaisant parce qu'il n'y a personne qui s'y retrouve là-dedans. Donc c'est un petit peu une critique de la société avec derrière des concepts philosophiques hyper pointus mais qui eux par contre tiennent la route. Si on lit attentivement, c'est vrai que ça demande une concentration assez importante. De chaque instant, philosophiquement, ça tient la route. Ses références sont, d'ailleurs, je crois qu'elle a une formation
de philosophe.
Ses références tiennent complètement la route. Et elle a greffé sur ses références historiques, elle a greffé une histoire un peu imaginaire autour d'une théorie qui expliquerait un peu pourquoi on est arrivé à ce qu'on est.
C'est quoi les théories Alors, de transmission
moïque ? La théorie, ça voudrait qu'à l'origine, l'homme était une proie au lieu d'être un prédateur, puisque avant de maîtriser les armes et de retourner contre les animaux qui le chassaient à l'époque ancestrale, il a fait l'expérience très tôt de la peur et donc de la violence en lui. Et en fait, l'être, au final, c'est quelqu'un de violent et tout ce qu'on va mettre de culture ne servira qu'à masquer cette violence.
Pourquoi tu ne serais pas traducteur officiel
de
Paula ?
mais au bout du compte, c'est ça qu'elle explique dans son langage, avec ses formes, mais qui sont très originales. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, je n'ai pas pris un plaisir fou à le lire, mais en tout cas, c'est un livre dont je me souviendrai. Et je trouve qu'elle ouvre certaines perspectives dans la manière de concevoir la littérature. Et je trouve ça assez bluffant des gens qui arrivent encore aujourd'hui à te surprendre en ouvrant certaines fenêtres et d'explorer de nouveaux territoires dans un domaine artistique. Et je trouve qu'elle réussit assez bien à le faire et en même temps à dire quelque chose de notre société de manière originale. Même si au niveau plaisir, on est assez loin. C'est pas fluide, c'est ardu.
Et l'écriture n'est même pas très belle ni très intéressante.
Ouais, je trouve que dans son sens de l'image,
elle a un vocabulaire malgré tout assez pauvre, je trouve.
Oui, mais elle arrive à faire des images avec des termes parfois très techniques. Elle arrive, je me souviens d'un passage où elle utilise des termes quasiment mathématiques, géométrie, vecteur et tout, pour définir une relation sexuelle. Et c'est assez comique parce qu'elle parle du vecteur qui glisse sur le plan. Enfin, et finalement, voilà, ça, c'est assez imagé, je trouve assez original dans sa manière de
l'étudier. Mais est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on est journaliste? Pourquoi c'est le rédacteur
pourquoi
en chef,
chef voilà. Oui. Non,
voilà, c'est pour ça. C'est parce que lui, il comprend
il
les choses.
Ça peut paraître très prétentieux de dire... Parce que je ne peux pas dire que j'ai aimé le livre et que ça a été un moment agréable. Mais en tout cas, je trouve qu'il pousse le bouchon un peu plus loin et il fait avancer les choses.
Moi, ce que je dis, je pense que c'est l'expression d'une frustration par rapport à un objet dont je n'ai pas réussi à pénétrer.
Ouais, j'ai pas trouvé le sens.
Voilà, c'est ça.
Par où qu'on rentre.
C'est exactement
voilà.
Ça.
Ah non,
c'est plus une frustration. Maintenant, sincèrement, je pense qu'il y a des éléments là-dedans qui sont vraiment brillants et parfois même brillantissimes. Simplement, moi, je
n'ai pas vu. Ouais,
pas accès à ça.
Bon, Kéké, toi, tu as lu quand même au moins 100 pages. Hein. Ah non, 80.
Oui, je ne sais plus exactement. Mais,
Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
En gros, j'ai eu l'impression moi, de me retrouver face à un syllabus de l'UNIF. J'étais nouveau sur les bancs de l'UNIF.
De temps en temps, tu as un mot comme fellation qui te fait... Oui, ok, je suis toujours en vie.
Mais d'un cours qu'on n'aime pas, du cours obligatoire.
Qui fait chier et qu'il y a des résumés qui circulent sur Internet.
Ce qui ne facilite pas les choses non plus, c'est que c'est très centré sur la vie politique. Argentine.
Il y a beaucoup de références.
Beaucoup de références aux périodes, aux multiples dictatures et au passé de syndicaliste de certains, tout ça, avec pas mal de notes de bas de page historiques qui recadrent un peu les choses. Ça nous parle sans doute beaucoup moins pour ces raisons-là, parce qu'il y a des références qu'on ne connaît pas.
Et pourtant, on a dit francophile
D'ailleurs, il y a un tiers de ces termes qui sont français dans ce cas-là.
C'est pour la petite touche chic, utiliser un peu le français.
Mais tout ça fait que ça fait beaucoup d'éléments qui empêchent de rentrer facilement dans le bouquin, quoi. Et n'étant pas un lecteur très très assidu.
Je trouve à dose homéopathique, de temps en temps, ça bouscule un peu.
Par contraste, les autres livres paraissent passionnants, je trouve.
Enfin, ça peut déjà être une bonne raison.
Ça sera l'électrochoc dans ton univers de lecteur.
Mais par contre, il y a certains passages où je lisais et j'oubliais un petit peu que je lisais. Par contre, après 20 pages, je me rendais compte que j'ai lu 20 pages, mais qu'est-ce que j'ai retenu un peu vraiment comme face à un syllabus.
Il y a un vernis, on peut croire que c'est de l'écriture automatique et qu'elle recherche juste une espèce d'effet de style comme ça. Mais derrière ça, en fait, il y a vraiment de la consistance au niveau conceptuel et philosophique. Donc, ce n'est pas juste un exercice de style, il y a quand même du contenu aussi.
Bon, alors, on va lui donner des dictionnaires sur 10, elle en a utilisé visiblement beaucoup. Ou des Google sur 10. Alors, moi, je lui donne 3 Google sur 10.
Moi, je pousse jusqu'à 7.
Je vais donner 5.
Google.
Mettre 3 aussi, c'est ce que, oui. 3 d'incompréhension.
Moi, je lirai quand je serai plus intelligent.
Oui, on attendra.
En fait,
ce
serait, ce serait la cote que j'aurais si je passais l'examen
Les théories sauvages de Paula Olwaksara qui est publié chez Seuil. Enfin, on va conclure cette émission avec une sélection de coups de cœur du moment, ce qui nous a marqué dans l'actualité culturelle assez rapidement. Alors moi, c'est le nouvel album d'Apparat, le nom de scène du producteur allemand Sascha Ring. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. Ça s'appelle Kriegenfrinden. Kriegenfrinden, guerre et paix, en allemand. Et c'est la bande-son d'une adaptation contemporaine au théâtre du roman de Tolstoï. C'est un disque essentiellement instrumental, il y a assez peu de voix. super planant, un disque nocturne, moi je l'écoute le soir avant de m'endormir, très spectral, qui dessine des forêts mousseuses ou de gentilles sorcières, déambule entre les arbres.
Quel langage imagé.
c'est Game of Thrones.
Un petit peu, mais avec une sonorité plus métallique, avec des farfadets, mais en argent. Voilà, c'est pas mal du tout, c'est même très très beau. Et je dois vous dire que Apparat sera en concert chez nous lors des Nuits Botaniques au Cirque Royal le 11 mai prochain. Et ce sera l'occasion de voir cet album en entier, Craig Frinden sur scène.
Ils sont avec Sons en plus.
Absolument, ah, je pensais qu'on disait Sons.
Ah, je sais pas, Sons ou Sons, enfin voilà. C'est plus facile de dire Sons.
Kevin, ton petit coup de cœur dont tu as le crachoir.
Voilà, le temps que je l'ai baissé, le dernier album de Thurston Moore, qui est, donc, c'est en fait un nouveau groupe qui s'appelle Chelsea Light Moving, qui est pas très loin de Sonic Youth, donc Thurston Moore étant un des chanteurs guitaristes de Sonic Youth. C'est pas très loin, mais ça reste super bon. Moi, j'ai toujours été super fan de Sonic Youth du début à la fin. C'est le groupe qui l'accompagnait sur la tournée. Il est passé notamment à Anvers l'été passé. Et c'était déjà une bonne claque en live. Et là, d'avoir l'album complet, c'est assez...
On est content.
Il n'y avait plus d'album de Sonic Youth depuis longtemps. Et il n'y en aura sans doute plus, a priori, vu que monsieur et madame ne sont plus ensemble. Et voilà, ça fait plaisir parce qu'ils sortent tous encore des albums sur le côté. Et ils ont beau être morts, ils ne sont pas morts. Quand même.
Tu sais qu'on avait dit rapidement, tu as déjà pris au moins 1 minute 30.
Et demi.
Vous avez pris la même longueur de temps.
Hein, c'est ça. Ah, mais moi je m'ennuie moins quand je parle.
Tu te sens moins long que lui. Quoi.
Mais c'est à toi.
Ah, voilà, complètement. Oui, alors moi c'est les Théories sauvages de Paula Loxarac. Un livre formidable au message philosophique intense.
Depuis que je t'ai expliqué, c'est devenu ton livre de chevet en 5 minutes.
Ouais. Je vais vite parler en 2 secondes de Louis C.K., donc de la série Louis. Donc il n'y a pas d'actualité spécifique maintenant parce que la saison.
C'est pas Louis Labrocante. Hein.
C'est pas. Comment s'appelle l'acteur vide de Louis Labrocante?
Ouf. Ah, Victor Lanoux.
Victor Lanoux. On parle trop peu de Victor Lanoux et de Richard Gottener. C'est vraiment deux personnages dont on parle trop peu. Et Louis, la saison 4 va commencer l'année prochaine en 2014, donc on n'y est pas encore. Mais par contre, je vais voir Louis C.K. en stand-up.
À Londres.
À Londres.
C'est pas vrai.
Complètement. Absolument. Donc j'y vais. Donc j'en profite pour dire
donc,
que
bientôt,
Louis.
Là, dans quelques jours.
Non, pas longtemps du tout. Et j'en profite pour dire que Louis, qui est une série FX, qui parle un petit peu de la vie misérable de ce comédien qui est Louis C.K., donc c'est assez haute, c'est une autofiction un petit peu. On ne sait pas vraiment quelles sont les limites de la fiction et de l'autofiction là-dedans, mais en tout cas, c'est aussi drôle que désespérant. Et je conseille cette série vraiment à toute personne.
Je confirme.
Ah ben voilà, tu es entré dans Louis.
Je suis rentré dans Louis.
Oui, bien tout honneur.
Voilà.
Et tu en as pensé que du bien.
Que du bien.
Formidable.
Je n'oserais pas rajouter un mot par rapport.
Voilà, donc regardez-le.
Et moi, pour un petit peu changer, je vous emmène voir une exposition.
Monsieur nous emmène voir une exposition.
Oui, mais très accessible, qui s'appelle Turbulence 2, à la Villa en Pin, donc qui est ce magnifique bâtiment restauré par la Fondation Bogossian, qui se trouve rue Franklin Roosevelt. Rien que pour le bâtiment, ça vaut le détour. Et donc, il y a une exposition avec des artistes contemporains qui viennent démarrer, qui viennent de Paris, sur ce thème de la turbulence, donc de tout ce qui est distorsion, déséquilibre, désordre. Et donc c'est à la fois des projections vidéo, des installations, des sculptures, des peintures, avec des choses qui sont poétiques, d'autres un peu plus mathématiques, d'autres tout simplement époustouflantes en termes de visuel. Un tout petit exemple, c'est une borne magnétique dans une pièce vide qui est soufflé par un ventilateur et juste par un effet magique, je ne sais pas, cette bande magnétique vole dans l'air et reste en suspens. Enfin voilà, c'est un effet, c'est tout bête, mais c'est magnifique. On peut rester 10 minutes devant cette installation toute simple. Voilà, donc c'est jusqu'en septembre, donc on a bien le temps d'aller la voir.
Super. Et ben voilà, c'est fait. Ouais. On a tout fini, on a tout épuisé, on n'a plus rien à vous dire. J'espère que ça vous a plu. C'est l'occasion de rappeler à ceux qui sont en train de nous regarder qu'ils peuvent aussi nous écouter sur iTunes et sur Podomatic. Et à ceux qui nous écoutent, qu'ils peuvent taper Focus Store sur YouTube et admirer nos physiques de presse écrite. Parce que oui, en fait, dans la vraie vie, on écrit toutes les semaines dans le magazine Focus Vif. On vous donne rendez-vous ici même dans 2 semaines. D'ici là, pensez très fort à nous. On fera pareil de notre côté. On vous embrasse. Salut tout le monde. Salut Laurent, Guy,
salut Myriam,
Kevin.
Salut.
À bientôt. Ciao.
Ciao. Salut.